quand même 3 degrés, un petit vent d'ouest, il est temps de mettre un bonnet. C'est pas ce calme relatif qui va nous tromper. Alors, même si on a vu arriver le sapin, place de jeu, les lumières dans les rues et les petites cabanes, place de la Victoire, le rêve de Noël ne prendra pas. Au contraire, les fêtes de Noël ont un arrière-goût particulièrement amer. La colère monte. Ce qui se passe en Bretagne est significatif. Cette colère met en mouvement des ouvriers, des marins, des artisans, des commerçants, des enseignants, des agriculteurs, des petits entrepreneurs au bord du dépôt de bilan. Cette alliance de ces catégories sociales, bien visible à la manifestation de Quimper du 2 novembre, n'a rien d'étrange, de confuse ou de contre-nature. Ce sont les gens qui subissent le choc des soubresauts de l'économie mondiale capitaliste, avec son flot de licenciements, d'horaires épuisants, d'angoisse d'être appauvris, ruinés, sans aucun avenir. Face à cette colère, la Sainte Alliance entre la gauche gouvernementale et le MEDEF, qui a toujours le même but, faire payer aux classes populaires l'écotaxe, l'augmentation de la TVA, et leur faire encaisser la destruction du code du travail, les licenciements et la faillite des travailleurs indépendants. Classique. Pourtant, la Bretagne fait beaucoup polémiquer. Au prétexte que quelques représentants de la FNSEA, des élus UMP et quelques individus d'extrême droite avaient l'intention de surfer sur le mécontentement s'exprimant à Quimper, Mélenchon a traité les travailleurs en lutte d'esclaves et de nigauds. Le but de Mélenchon, certainement, se qualifier comme potentiel Premier ministre. Certainement pas de faire progresser la compréhension générale, plutôt de diviser absurdement. Pour rappel, la Commune de Paris de 1871 était une lutte mettant au coude à coude des ouvriers, des artisans et des petits entrepreneurs. Les politiciens et les dirigeants syndicaux qui se plaisent à opposer les salariés aux autres catégories populaires victimes du capitalisme ouvrent une voie royale à l'extrême droite. C'est donc plus que jamais le moment d'être autonome, indépendant, libre par rapport aux politiciens pseudo-socialistes, pseudo-écologistes, pseudo-communistes et aux dirigeants pseudo-syndicalistes. C'est aussi plus que jamais le moment de revendiquer un autre monde possible, respectueux de l'homme et de l'environnement, de revendiquer des utopies. Et c'est un peu le sujet de cette émission. Un peu parce qu'on a deux sujets. Le premier, c'est le nucléaire, avec le livre « Le cycliste de Tchernobyl » sur les lendemains de Tchernobyl qui font écho à la situation des Japonais d'aujourd'hui. Et dans une première partie, on aura Isabelle Frémaux au téléphone. Elle est auteure avec John Jordan des « Sentiers de l'utopie » et elle participe également à un projet alternatif, la RONCE, acronyme de « Résister, Organiser, Nourrir, Créer, Exister ». Ce qui nous plaît bien. L'image de ce soir est celle d'une panthère rouge au bonnet rouge qui revendique de résister, organiser, nourrir, créer, exister dans un monde où surtout on a dit bye bye au nucléaire.
Thank you.
écoutez Radio Campus, émission Panthère Rouge. Et nous sommes avec Isabelle Frémaux au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Donc on va présenter...
Je t'entends pas très bien.
Oui, alors on nous dit toujours ça. Je vais essayer de parler fort, mais on a une super technique à Radio Campus qui...
D'accord.
Donc je vais essayer de bien m'exprimer au moins. On présente Les Sentiers d'Utopie, un livre film écrit à deux avec John Jordan. Qui est écrit au fur et à mesure d'un voyage vers différents lieux alternatifs qui vont nourrir votre capacité à imaginer une utopie et aussi celle de vos lecteurs. Mmh. L'ouvrage commence par le récit assez palpitant de l'occupation d'un terrain devant être une extension de l'aéroport de Londres. Pendant 2 semaines, des militants venant de partout et ayant réussi à passer malgré les policiers ont occupé et organisé une société écolo et démocratique. On vous suit préparé à arriver sur le terrain et vivre. Bref, cela commence avec de l'action, du suspense, un peu d'humour. Pour se terminer sur un vide, le départ des militants, le retour dans le monde capitaliste normal et les questions que reste-t-il après ? Comment faire durer ces moments qui sont comme des brèches dans lesquelles les règles du capitalisme ne s'appliquent plus. D'où ce voyage à travers les 10 lieux et qui expérimentent des utopies. Vous avez donc fait le choix de faire le lien entre toutes ces diverses expériences alternatives et l'action politique. Pouvez-vous expliquer pourquoi ?
Alors déjà, il me semble que en ce qui nous concerne, l'action politique et l'alternative est vraiment profondément liée. Donc c'est pas tellement un lien, c'est que pour nous, c'est vraiment les deux faces d'une même chose.
Vous dites
pour
vous.
Il paraît toujours très important d'être à la fois dans la proposition et dans la résistance, de dire à la fois oui et non. Parce que si on n'est que dans le non, on a tendance à être... De devenir très cassant, de devenir assez rapidement désespéré. C'est pas une attitude qui nécessairement nourrit le désir d'être seulement dans la négative, seulement dans la confrontation. On attire aussi beaucoup plus facilement la répression. C'est vraiment ce qui s'est passé dans les années 70, si on voit notamment aux États-Unis, ce qui s'est passé, les Black Panthers par exemple, des activistes qui étaient vraiment que dans le nom, même si les Black Panthers étaient vraiment aussi dans la proposition, mais voilà, c'est que la répression est très forte. Et si on est que dans l'alternative, on a tendance un petit peu à se retirer du monde, à créer un îlot paradisiaque et à oublier contre quoi on lutte. Donc c'est pour ça que pour nous, c'était toujours très important de montrer que l'utopie, elle ne peut être que dans la proposition qui est à la fois une lutte contre le système, et même si on imagine un jour arriver à une société plus juste, plus égalitaire, l'utopie, elle sert toujours à être aussi dans une démarche critique et autocritique de la société qu'on construit au fur et à mesure. Donc on n'est pas dans une logique de la révolution, c'est le grand soir, c'est demain. C'est vraiment quelque chose qui se fait pas à pas, à la fois dans l'imaginaire et à la fois dans le faire.
Donc, comment vous définissez l'utopie ?
Excuse-moi, je t'entends vraiment quasiment pas, en fait.
Est-ce que vous pouvez donner une définition de l'utopie ?
Ouf ! En fait, tu vois, ça fait un peu 5 siècles que des gens s'y essaient, donc je vais avoir du mal à réussir ça ce soir en 3 minutes. Mais pour moi, en tout cas, l'utopie, c'est d'avoir le courage et la capacité de se projeter donc de manière imaginaire, d'avoir le courage de faire le pas de l'imaginaire vers un monde meilleur, même si ça peut paraître quelquefois un peu naïf, malheureusement, de dire ça, puisque c'est devenu quelque chose de péjoratif d'être rêveur. Mais moi, c'est quelque chose que je défends beaucoup, la capacité de rêver à une société plus juste, plus égalitaire, moins destructrice, et d'avoir le courage de le faire dans le pratique et dans l'ici et maintenant. Donc en fait, moi je me départis beaucoup de cette idée de l'utopie comme de quelque chose de parfait, d'une projection pure et parfaite d'une société à venir, parce que je pense que c'est cette conception-là qui a fourni et qui a généré énormément d'horreur, le stalinisme, le capitalisme, c'est la même chose, le fascisme, le stalinisme, le capitalisme, c'est la même chose. C'est au nom de ce bonheur à venir demain, tout est justifiable aujourd'hui. pour moi, l'utopie, c'est la capacité de se dire les choses peuvent être meilleures demain, mais on va commencer aujourd'hui, on va accepter aujourd'hui qu'elles ne soient pas parfaites, qu'on va faire des erreurs. Mais c'est vraiment cette idée très belle définie par Eduardo Galeano, qui dit quand on marche, si je marche 4 pas, l'utopie s'éloigne de 4 pas. Si je marche encore 10 pas, l'utopie s'éloigne encore de 10 pas. Elle reste toujours à l'horizon. Alors à quoi sert-elle? Eh bien justement, elle sert à ça, à continuer à marcher. Et moi, je trouve que c'est une belle définition de l'utopie, hein, mais de marcher de manière résolue vers quelque chose de, comme je disais, plus égalitaire, plus juste, sans hiérarchie, moins destructeur.
Et donc, vous avez pris des sentiers de l'utopie, vous êtes allé dans différents lieux. Je vais les citer quand même parce qu'ils sont tous particuliers. Il y a Land Matters, qui est une communauté qui fait de la permaculture dans la campagne anglaise. Ouais. Paedia, une école anarchiste accueillant des enfants de 2 à 16 ans qui convoquent des assemblées générales quand bon leur semble. Marina Leda, on en avait parlé déjà sur Radio Campus. Can Mas Déu, un squat tout près de Barcelone, des communautés en France basées sur des activités artisanales, agricoles ou artistiques. Il y a aussi une entreprise pharmaceutique serbe dans laquelle les travailleurs avaient été licenciés et ont repris le contrôle de leur société. Il y a ZEG, c'est un collectif en Allemagne qui était sur une ancienne base de la Stasi et qui envisage de nouvelles possibilités dans le domaine de l'amour. Et enfin, il y a Christiana, qui est une partie de Copenhague entièrement autogérée par ses habitants. Quels sont les critères qui vous ont fait choisir ces lieux si différents?
Alors en fait, nous on avait 2 fils rouges pour sélectionner les endroits qu'on avait envie de visiter. C'est que ce n'était que des projets et des initiatives qui étaient organisées de manière horizontale, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chef, pas de groupe, pas de comité central. Que tous ces projets utilisent d'une manière ou d'une autre le consensus comme processus décisionnaire. Et donc c'est vraiment une approche de l'autogestion. Et que le deuxième critère est en fait un critère négatif, qui était qu'aucun de ces lieux ou de ces projets n'était fondé sur une religion ou une spiritualité spécifique, parce que c'est vraiment quelque chose de très très spécifique. Donc évidemment, il y a des pratiques spirituelles ou religieuses dans la majorité de ces lieux, mais ça n'est pas, c'était pas quelque chose qui les fondait. Et il y a un autre critère qui était que nous, on avait vraiment, c'était très important pour nous de ne pas suggérer qu'il y a une manière de faire pour essayer de répondre aux crises auxquelles on fait face ou dans lesquelles on est plongé plutôt qu'y faire face. Et c'est cette idée que voilà, on aurait pu éventuellement se mettre à la recherche de la solution et que avec un peu de chance on la trouverait, qu'il n'y aurait plus qu'à la dupliquer et voilà, magiquement on aurait la solution en 400 pages. Ça nous paraissait beaucoup plus important d'explorer cette idée de sentier, de laboratoire, d'avenue. Et donc on avait très envie d'aller voir des lieux qui étaient très différents les uns des autres. Et c'est pour ça qu'on est allé alors dans un camp de résistance, le camp Climat, qui était un lieu, un projet dans lequel on était nous-mêmes très très impliqués. Et puis une communauté de permaculture, des usines, donc des projets qui essayaient d'explorer à leur manière une grange, j'allais dire tous les aspects de la vie. On les a peut-être pas tous couverts, mais en tout cas, on a essayé de proposer un éventail de laboratoires pour pouvoir dire, mais en fait, voilà, les solutions sont nécessairement multiples, sont nécessairement alors à petite échelle et locale, mais complètement liées et fédérées. Voilà, il n'y a pas une solution à un problème. On est vraiment dans une situation très complexe de crises multiples qui sont complètement interdépendantes. Et à ça, il faut répondre avec une approche également multiple. Donc c'est pour ça qu'on est allé voir des projets si différents les uns des autres.
Et qui prend en compte les différences de chacun, en fait.
Pardon ?
Oui, je disais, qui prend en compte aussi le fait qu'on est chacun différent et qu'on est chacun dans des contextes différents.
Tout à fait, tout à fait. Et que cette différence-là est une force et une richesse, et pas du tout un problème qu'il faut gérer.
À la lecture de votre livre, j'ai pensé à un autre livre, Crack Capitalisme de Holloway. Alors, nous en avions parlé sur nos ondes il y a quelque temps avec le traducteur de la version française, José Chatroussa, et il disait entre autres...
Justement, l'horreur dans laquelle nous sommes plongés avec ce système capitaliste a des fissures, a des failles, et qu'à partir de ces failles, qui sont à la fois des espaces et des moments, on peut envisager de faire éclater cette horreur et de s'en débarrasser pour avoir d'autres relations humaines et donc construire un autre monde en fait.
Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, mais ça m'amène à vous poser la question, est-ce que vous pensez que ces lieux alternatifs, ce n'est pas juste des lieux en soi, c'est aussi quelque chose qui a pour vocation ultime de renverser le capitalisme?
Alors je ne crois pas que le capitalisme soit quelque chose qu'on peut renverser. Je pense que ça c'est un peu une...
Qu'on peut le faire s'écrouler.
Pardon?
Peut-être qu'on peut le faire s'écrouler plutôt.
Voilà. Alors je pense qu'on est plus dans une situation où on peut le faire s'écrouler, quoi qu'en ce moment il a l'air de faire ça très bien tout seul. Je pense que les failles, alors c'est intéressant parce que Holloway il parle de failles, nous dans le livre on parle de marge, d'interstice. En tout cas, on est vraiment dans la même idée. Alors nous, le truc auquel on s'attache beaucoup, c'est que dans les écosystèmes, dans les milieux naturels, c'est vraiment aux marges qu'il y a le plus généralement, le plus de résilience, le plus de diversité, le plus de capacité à faire face aux chocs et aux problèmes. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose à laquelle c'est une approche à laquelle nous on est très attachés. C'est beaucoup plus difficile de faire changer un écosystème, enfin si vous avez une prairie et une forêt, c'est plus difficile de faire changer l'écosystème du milieu de la prairie ou du milieu de la forêt. Vous allez voir que c'est vraiment à la lisière entre les deux que vous avez le plus de diversité et de résilience. Donc moi je pense que les marges sont un des nombreux points de levier qu'on a effectivement pour pouvoir commencer à grignoter et à récupérer beaucoup des choses que le capitalisme nous a volées, c'est-à-dire la capacité à être autonome, la capacité à vivre ensemble, à prendre des décisions ensemble, à retrouver un autre désir que celui du consumérisme forcené, à apprendre d'autres relations que celles qui soient uniquement basées sur la compétitivité. Je pense que c'est aussi dans ces interstices qu'on peut retrouver et expérimenter des valeurs qui sont loin de celles que le capitalisme impose et a imposé depuis quelques centaines d'années et du coup à réapprendre l'autonomie, le collectif, d'autres formes de désir, eh bien on peut trouver des points de levier pour pouvoir le dépasser. Je pense que le capitalisme c'est quelque chose qui se dépasse plus qu'il ne se renverse. Ceci dit, je ne pense pas non plus que ce soit l'unique forme de lutte, vraiment pas. Enfin, j'ai vraiment pas du tout envie de suggérer qu'il faut que tout le monde aille monter des collectifs à la campagne et que tout ira bien. Je pense qu'il faut aussi créer des marges, créer des failles, créer des points de levier où qu'on soit. Et que ça, c'est très important de ne pas se donner l'impression qu'on peut sortir du système. Je pense que le capitalisme est un système qui fait qu'on reste dedans et qu'on peut petit à petit réapprendre à s'en défaire. Mais voilà, il y a vraiment une multiplicité de formes et de relations pour réussir à se dépatouiller de ce monstre horrible.
Et donc vous parlez de multiplicité de formes et dans ce travail vous avez choisi deux formes différentes, à la fois un livre et un film. Alors le livre il est à la fois, c'est un récit, il se lit facilement mais en même temps c'est très scientifique, il y a beaucoup de références et il y a à la fois le récit mais aussi des analyses, des difficultés, des faiblesses, bref c'est du lourd. Et à côté de ça il y a un film dans lequel on voit à quoi ressemblent les lieux, les gens, le paysage, le rythme de la vie des gens. C'est des brides de vie brute où l'on regarde des moutons ou encore un soleil couchant. Je vous fais écouter un extrait.
Qu'est-ce que tu penses, Isa?
Rien du tout. Alors là, je pensais à rien du tout. Je pensais que c'était beau, comme je ne pensais pas. Parce que c'est très beau ici. C'est bien d'avoir des endroits où tu ne penses pas. Parce que c'est tellement beau, c'est tellement calme. Quand je pense que d'habitude, à cette époque de l'année, on est dans une ville qui arrête pas de nous dire « Achetez, 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 achetez !» Avec des lumières de partout. D'être ici sans cette pression-là, c'est vachement bien. On oublie presque que ça va être Noël.
Voilà, ça c'est vrai, c'est encore vrai, ça va encore être Noël. Isabelle, pourquoi avoir fait ce film ?
Alors en fait, nous on avait très envie justement d'avoir cette forme, cette double forme, hein, avec le documentaire qui était comme tu l'as dit, plus le livre, qui nous permettait d'avoir un peu une analyse et effectivement des références, parce qu'on n'avait pas envie d'en faire quelque chose qui soit juste un carnet de voyage d'opinion. Et en même temps, on avait envie de le mettre en relation avec quelque chose qui était beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus créatif, beaucoup plus ludique, et qui faisait explicitement référence à la littérature utopiste du 19e siècle. On a été très très influencé par les nouvelles de Newport de William Morris, par exemple, qui est vraiment une projection dans un avenir où du coup, bah, effectivement, tout est devenu beau, tout est devenu merveilleux, et on avait beaucoup envie de jouer avec ça, avec cette dualité-là. Parce que c'était très important pour nous de faire un projet qui générait du désir, qui essayait de dire aux gens, mais voilà, ce n'est peut-être pas la solution pour régler tous les problèmes, mais ça vaut la peine d'essayer, voilà, de s'y prendre autrement que le métro boulot dodo. Et du coup, voilà, on avait envie qu'il y ait cette espèce de va-et-vient entre le livre informé et plutôt documentaire, et la forme visuelle qui était beaucoup plus onirique et avec une dimension très romantique qu'on revendique complètement.
Bon, on va justement écouter un morceau très romantique et on se retrouve après pour parler de votre projet La Ronce.
Merci.
À tout de suite. Thank you. Radio Campus, émission Panthère Rouge. Nous sommes avec Isabelle Frémaux et Clément.
Bonsoir, bonsoir Isabelle. Je vais enchaîner sur ce qu'a dit Lise un petit peu. Et il y a une question quand même que je voulais poser par rapport au livre. C'est le fait que, est-ce que... parce qu'on a beaucoup parlé tout à l'heure de l'effondrement ou de dépasser le capitalisme, mais on n'a pas parlé du fait aussi de dépasser peut-être le concept de d'État, parce que vous en parlez un peu avec John Jordan dans le livre, c'est le fait que toutes ces expériences un peu partout pourraient se fédérer, et donc l'État n'aurait pas forcément de raison d'être.
Allô, allô. Et du coup, c'est quoi la question?
Ouais, la question, c'est par rapport justement à la question de l'État-nation et de dire, est-ce que ces entreprises-là d'autogestion vont pas aussi à l'encontre du concept d'État-nation?
Ouais, alors... Moi, je pense que oui, très certainement. Je veux surtout pas devenir la porte-parole des 11 projets qu'on a visités. Et à mon avis, ça, c'est quelque chose que plusieurs de ces projets seraient assez mal à l'aise avec cette analyse-là. Donc, il y en a certainement un grand nombre qui seraient tout à fait dans cette optique-là, mais pas tous. Donc, moi, je peux t'expliquer. Comment je me positionne par rapport à ça. Je pense qu'effectivement, le concept d'État est certainement le modèle républicain dans lequel on est englué en France, est un véritable obstacle à la démocratie plutôt que l'outil démocratique qu'on nous présente systématiquement et contre lequel il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace de discussion. C'est très très compliqué de dénoncer le concept d'État et le concept de République sans tomber dans les accusations d'antidémocratie, alors que moi je pense que c'est un système, certainement le système dans lequel on est complètement englué en ce moment. C'est un système qui fait que la très grande majorité des gens délègue, mais c'est même pas de la délégation, parce que dans le sens de délégation, il y a quand même une forme de décision. Je pense que la très grande majorité des gens, on leur a jamais demandé leur avis, mais finalement, donnent leur pouvoir à des gens qui n'ont absolument pas les mêmes intérêts qu'eux, qui ont des intérêts très très spécifiques et qui ne représentent en rien le bien commun. Et on voit bien qu'ils ne font que, enfin, je dis ils et elles, mais voilà, qu'ils ne font que défendre des intérêts qui vont à l'encontre du bien commun, qui ne font que présenter la sacro-sainte croissance comme l'objectif final d'un projet de société. Ce qui est quand même, quand on prend deux minutes pour y réfléchir, on se rend bien compte que ça n'a absolument aucun sens. Donc non seulement ça n'a aucun sens, mais en plus c'est complètement destructeur. Donc ils continuent à nous envoyer dans le mur de plus en plus vite. Et on est dans une espèce d'analyse circulaire qui fait que quand on essaye de dire mais ce système-là n'est pas démocratique et moi je revendique mon droit à l'autonomie, à décider pour moi-même et pour les gens autour de moi la façon dont je veux vivre et dont je veux décider des choses, on nous dit ça n'est pas démocratique. Donc c'est pour moi c'est très important d'essayer de sortir de ça, et je pense qu'effectivement les interstices, les failles comme le dit Holloway sont une manière de récupérer cette autonomie-là. Et aussi, d'une certaine manière, de montrer que c'est possible, même si moi je ne suis pas du tout dans une logique d'exemplarité et de faire que ces projets deviennent des modèles. Je pense pas du tout que ce soit l'objectif d'aucun d'entre eux, mais ils servent aussi à ça, à montrer que finalement c'est possible et que les gens sont tout à fait capables de prendre des décisions collective d'une manière autonome, avec des résultats grandement moins destructeurs que ce que nous mijotent les élites à longueur de temps.
Et du coup, ça amène un peu sur la question de l'échelle aussi, parce que en fait les projets qui sont montrés dans le livre sont souvent se font à une échelle assez petite, disons il y a au maximum peut-être c'est 3000 personnes ou des choses comme ça ou quelque chose comme ça à Marina Leda, je pense, mais globalement c'est des projets où il y a assez peu de monde. Et du coup, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus sur le fait que est-ce que justement la démocratie et l'autogestion c'est pas aussi une question d'échelle, quoi?
Ouais, moi je pense vraiment qu'il faut repenser la question de l'échelle dans la société dans laquelle on est en ce moment. Je pense qu'on s'est retrouvé dans une espèce de gigantisme qui sied tout à fait au capitalisme, parce que justement il permet de fragmenter. Alors ça peut paraître paradoxal, mais je pense que c'est le gigantisme qui permet d'atomiser de plus en plus et donc de défendre quelque chose de très individualiste, parce que comme on est dans un système qui est basé sur le gigantisme, les petits groupes et les petites échelles perdent de la visibilité et perdent de la vision, donc on se retire vers des unités de vie de plus en plus petites. Enfin, on voit bien, c'est la famille, et de plus en plus il y a des gens qui vivent tout seuls. Enfin, on est vraiment dans un... En tout cas, dans la société ultra néolibérale occidentale, on se rend bien compte que c'est vraiment cette poussée du gigantisme qui va vers l'individualisme. Et je pense qu'effectivement, pour pouvoir retrouver une autonomie, il faut réussir à repenser l'échelle. Ça ne veut pas dire que nécessairement il faut ne penser qu'à échelle de 150 personnes. Je pense qu'il y a j'ai complètement confiance dans la capacité humaine à s'adapter aux besoins et au contexte en place. Donc je pense qu'il n'y a absolument pas de chiffre magique, mais en tout cas on voit bien que même en termes écologiques, le gigantisme industriel et politique est quelque chose qui est complètement, complètement délétère. Donc c'est quelque chose à repenser. Il y a un autre bouquin, on ne va pas parler que du mien, il y a un autre bouquin qui est vraiment formidable pour ça, ça s'appelle Bolo Bolo par PM, et qui montre bien, enfin, qui est vraiment une tentative de repenser une société utopiste à partir de petites unités. C'est vraiment très très intéressant. Donc moi j'ai absolument pas de modèle prêt à envoyer clé en main avec un nombre magique et quelle échelle il faut, mais ça me paraît absolument évident que l'échelle est à repenser, l'échelle démocratique, l'échelle d'organisation, l'échelle de production d'énergie, de production agricole, de production industrielle, tout est vraiment à repenser, ça c'est certain, oui.
Du coup, ça nous amène assez facilement à parler du projet que vous avez, donc le projet de la Ronce, qui tu parlais tout à l'heure, du fait que il faut résister, il faut dire non au système, mais il faut aussi proposer, et en même temps, la lutte est aussi un moyen d'avoir un rapport à l'extérieur. C'est ce que vous expliquez dans le livre, en fait, qu'il y a beaucoup d'endroits où vous êtes allé, où en fait, c'est de lutter contre le système, c'est un moyen aussi de pas être sclérosé, de pas être asphyxié par les projets en eux-mêmes, quoi. Et du coup, vous, après ces expériences-là, donc vous avez décidé de mener le projet de la Ronce. Donc si tu pouvais nous en toucher quelques mots.
J'ai pas entendu la question.
Ouais,
très bas le volume.
Ouais, pardon. Juste simplement nous parler de la Ronce, en fait. Il n'y a pas vraiment de question.
Alors la Ronce, c'est un projet qu'effectivement on a monté. Alors l'anecdote est qu'on était en train d'écrire le dernier chapitre du livre. Et qu'on était déjà convaincus par le fait que cette approche de vie là était celle qu'on avait envie d'avoir, qu'on avait vraiment envie de mettre un terme à la vie qu'on avait à Londres, qui était une vie très intéressante, mais qui nous paraissait de plus en plus incohérente. qui était une vie où moi j'étais salariée, on était très actifs politiquement, mais voilà, on participait à des événements qui nous faisaient l'effet de feux d'artifice, donc très intense, et puis on revenait chez nous, moi je retournais au travail, on retournait dans notre appartement, enfin, il y avait quelque chose où on vivait dans une mégalopole qui par essence est écologiquement vraiment problématique, donc ça nous paraissait de plus en plus incohérent. Et alors qu'on était en train d'écrire le dernier chapitre du livre, on a reçu un email d'un ami qui nous disait, ben voilà, dans le Morbihan, il y a des amis qui ont trouvé des terres, vous devriez aller voir. Et puis, on a été charmés et par les gens, et par le lieu, et par la communauté qu'il y a ici. Et donc, on a monté la Ronce, dont le nom essaye d'exprimer les multiples objectifs qu'on a, puisque c'est un acronyme qui veut dire résister, organiser, nourrir, créer, exister. Et qui vient du fait que les terres qu'on a, les 7 hectares qu'on a achetées avaient été abandonnées pendant plus de 15 ans, donc étaient fortement envahies par les ronces, et que la ronce est une plante qui nous inspire beaucoup, puisque c'est la plante qui exprime très bien à la fois la résistance par les épines et la proposition par les fruits. En plus, c'est une plante pionnière et elle protège les petits arbres quand la forêt essaye de se réimplanter, et quand les arbres sont assez forts, elle se retire. Et donc nous, on aimait bien cette idée de pouvoir être dans cette idée de protéger des projets, quels qu'ils soient, et de pouvoir se retirer quand ils avaient pris de la force. Donc ça fait 2 ans qu'on est sur le lieu. Il y a vraiment beaucoup de travail. Et il y a 4 projets, pour le moment, 4 projets interdépendants, qui sont un projet de maraîchage bio, un atelier autogéré, une cuisine végétalienne itinérante, et le laboratoire d'imagination insurrectionnelle, qui est un collectif que John et moi avons monté il y a 10 ans, et dont on aimerait qu'il ait une base permanente ici, et qui se voudra un centre de formation sur l'art, l'activisme et la permaculture à partir de l'année prochaine.
Et ce qui est intéressant aussi dans la ronce, c'est que en fait vous avez fait le choix d'acheter les terres, alors que dans le livre il y a beaucoup de, je pense par exemple à la Vieille Valette où en fait c'est des terres qui n'ont pas été achetées, quoi, enfin qui sont en grande partie squattées. Donc c'est marrant que vous ayez fait le choix de jouer en partie avec les règles du système, c'est peut-être aussi...
Oui, c'était une décision difficile à prendre. En fait, on a fait le pari de la pérennité. Le problème du squat, c'est que par essence,
c'est éphémère.
Ça peut être temporaire. En tout cas, c'est assez précaire, puisqu'on ne sait jamais quand on va être expulsé ou pas. Alors, ça peut être jamais, hein. On voit bien... À Christiania, ils ont squatté la caserne militaire pendant quasiment 40 ans avant de réussir à acheter les terres. À la Vieille Valette, ils y sont depuis quasiment 20 ans. À Canmas-Déo, ils sont squatteurs depuis plus de 10 ans. Donc voilà, c'est pas forcément une précarité qui veut dire court terme. Mais nous, on avait envie de quelque chose de vraiment pérenne, de pouvoir vraiment faire des choses... avec la capacité de s'y installer pour nous et pour d'autres générations. Et donc on s'est dit qu'on allait acheter, mais acheter de manière collective, et en essayant de monter un système qui luttait vraiment contre la spéculation foncière, donc en essayant quand même de lutter contre ce qui fait le problème fondamental du capitalisme, c'est-à-dire la propriété privée et privative, et la spéculation. Donc là, on a essayé de monter une structure juridique complexe, dont je vous épargnerai les détails fastidieux, mais de monter une structure qui permette d'être propriétaire en collectif, d'une manière qui soit le moins privatif possible, et surtout pour éviter que ce soit des terres qui risquent d'être remises à la spéculation financière et foncière. Donc c'était notre réponse à cette difficulté quand on est encore dans le système capitaliste, de comment on fait pour essayer de monter quelque chose de pérenne sans tomber dans la propriété. Et on n'a pas réussi à trouver de réponse à ça.
Bien, je pense quoi.
Voilà, il y a beaucoup de choses à explorer. à expérimenter. Et pour ce qui vous concerne, on peut venir vous voir à la Ronce. C'est un espace qui est ouvert. Et il suffit d'aller de prendre contact avec vous, en allant sur votre site internet et en trouvant votre adresse.
Alors le site internet, il est en pause. Et alors, on veut bien que les gens effectivement nous contactent à l'avance, parce que si on a 15 personnes qui débarquent à l'improviste, vu les conditions d'accueil en ce moment, ça risque d'être très très compliqué, puisque le bâtiment n'est pas habitable et qu'il y a quelques yourtes, donc c'est pas très facile. Mais effectivement, il y a un email, et ça, les contacts sont à la fin du livre.
Le livre qui s'appelle Les Sentiers de l'Utopie, donc vous avez écrit Isabelle Frémaux avec John Jordan aux éditions La Découverte. On vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir réalisé cette interview avec nous. À bientôt.
Merci à vous, c'est un grand plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà valkunadia, i gulombi kida brille, volendo sempre per patio. Non farei più sonate a usarvi le murnadie, neppure disintaremo improvvisa nanta ladie. Brin campo fornello, quando sera la stagione, e giovano tagliera, aspettarane tu canzone. Tanto promesso d'essere sempre al mio lato, ma quando ti ho visto io onde si nastro il mio via. Ci pensi bione che la mia memoria scrotia, piengo di sapene che t'hai certi da strio. Thank you.
Il est 18h48, ce n'est pas du tout l'heure de dormir. Réveillez-vous, vous écoutez Radio Campus et nous allons parler de radioactivité avec Claire. Claire.
Oui, alors j'ai lu...
Réveillée.
Je suis réveillée, je suis active et je vais parler de radioactivité.
Yes.
Ouais, à la radio, pardon. Alors j'ai lu récemment le livre de Xavier Sébastien. Peut-être qu'on dit Javier Sébastien, je ne sais pas, c'est en espagnol. Donc c'est un livre qui s'appelle « Le cycliste de Tchernobyl ». Et c'est un livre qui est inspiré de la vie de Vassili Nestenko, un physicien spécialiste du nucléaire devenu homme à abattre pour le KGB pour avoir tenté de contrer la désinformation systématique autour de Tchernobyl. Donc c'est quelqu'un qui était là pendant les événements, la catastrophe nucléaire, qui était là après la catastrophe, qui a essayé de faire de l'information dans les villages autour, qui a essayé de...
C'était quoi en fait? Il faisait quoi comme métier?
Et alors, lui, il était physicien. Il avait travaillé sur le nucléaire avant. Et du coup, après, il a passé sa vie à essayer d'informer le monde, en fait, de ce qui se passait. Et le KGB eux, tentaient plutôt de le faire taire parce qu'ils trouvaient que c'était pas très agréable, tout ce qu'il disait. Et voilà, donc c'est un livre assez chouette. Il y a pas mal de scènes de vie, donc à Pripria, donc c'est le village qui était juste à côté de Tchernobyl. Donc au début, il est tout seul dans ce paysage où il n'y a plus personne. Et petit à petit, il y a des gens donc, qu'on appelle les Samosioles. Donc c'est des gens qu'on avait fait partir de Tchernobyl au moment de la catastrophe et qui sont revenus, pas forcément légalement, parce qu'au début c'était interdit de revenir, mais parce qu'en fait ils n'avaient nulle part où aller et qu'ils se disaient, bon, bah, vu qu'on n'a rien, autant revenir... de là où on vient. Et alors j'ai bien aimé ce livre parce que ça rappelle un petit peu les conséquences du nucléaire sur le corps des gens, donc tout ce qui est cancer, où ça tue les cellules aussi, qui sont plus capables de se régénérer, donc les gens qui perdent leur peau, et puis après... Donc ça, c'était sous des fortes irradiations. Et ensuite, aussi, toutes les maladies qui viennent après sur les irradiations donc plus faibles, mais plus longues. Donc tout ce qui est cancer, tout ça. Et
donc, ils expliquent cela. C'est pas juste la vie du gars, c'est aussi les découvertes. Enfin, c'est un côté scientifique.
Alors, en fait, ce bouquin, c'est pas tellement la vie du gars. En fait, c'est vraiment des petits bouts de sa vie.
D'accord.
Quand on lit, on se rend pas forcément compte de exactement à quel moment c'est. Parfois, c'est vraiment plein de petits portraits, plein de petites scènes. Par exemple, là, j'ai sélectionné une toute petite scène... Où il travaille avec les enfants. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de le lire. Je le lirai peut-être. Alors, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même quelques chiffres, ce qui fait que c'est un ouvrage où on apprend des choses. En 3 ou 4 minutes, on connaît le niveau de radioactivité interne qui, dans le cas des enfants, ne doit pas dépasser 10 ou 15 becquerels par kilo, seuil que les autorités sanitaires avaient fixé à 50, plus tard à 70 et même à 110, mais pas au-delà. 37 becquerels, c'est déjà trop, mais dans ces circonstances, on peut considérer ce chiffre comme acceptable. Des enfants qui saignent du nez se fatiguent très vite, même après n'avoir monté que 2 volées de marche. Des enfants qu'on ne laissait pas sortir à la récréation. C'était exactement ce dont se rappelait Vassia de ses déplacements dans le district de Braquin-Narovia et Koniki. Un enfant plus joyeux que les autres lui avait raconté. Parfois mes mains tremblent. Au début, j'avais peur parce que je pensais que j'allais mourir. Le fils de Madame Kodosiok est mort. Mon ami Victor est mort et mon voisin de pupitre a été emmené à l'hôpital de Sivista. Il avait le cou gonflé, il ne pouvait presque plus respirer et passait toute la journée à tousser. Mais moi, comme je ne suis pas encore mort, je suis content. Ma mère me fait boire un sirop. Voilà. Et
c'est chouette, hein.
C'est chouette. Mais après, bon, il y a aussi aussi toute l'arrivée des Samosioles qui reviennent à Pria et où ils essayent de se battre pour vivre, en fait, pour être vivant dans un monde. Et c'est assez beau, quoi. C'est pas forcément triste tout le temps.
Oui, parce que c'est la vie, quoi. C'est des gens qui veulent vivre.
Voilà, c'est des gens qui veulent vivre. Enfin, et qui vont mourir aussi.
Bah oui, très certainement.
Alors, du coup, je me suis un petit peu intéressée à ce personnage de ce scientifique. Donc, qui a créé ce qui s'appelle le BELRAD. Donc, il a créé en 1989. Donc, pour aider la population à mieux gérer. Enfin, voilà, c'était un institut indépendant biélorusse de protection radiologique pour aider la population à mieux gérer les effets à court et moyen terme de la radioactivité, en particulier les effets de radionucléides ingérés avec la boisson et la nourriture. Cet institut ensuite a été attaqué par les instituts internationaux tels que l'OMC, donc l'Institut mondial de la santé, et l'AIEA.
L'OMS, pardon.
Ouais, l'OMS et l'AIEA, donc Agence internationale de l'énergie atomique. Alors, dont je vais reparler plus tard. Donc, comme j'étais sur Wikipédia.
Oui, vas-y.
Ouais, j'ai l'impression que ça passe trop vite. Donc, sur Wikipédia, on peut voir des chiffres sur Tchernobyl. Donc, ils disent qu'il y a eu 30 morts par syndrome d'irradiation aiguë directement attribuable à l'accident. Et on estime que 5% des décès des liquidateurs, donc c'était les hommes qui étaient sur place à ce moment-là, seraient liés à la catastrophe. Et dans les populations locales, ils disent qu'il y a 4000 cancers de la thyroïde qui ont été diagnostiqués. En conséquence de la catastrophe.
Donc c'est fou.
C'est pas beaucoup. Et en fait, ça, c'est des chiffres de l'AIEA.
Ah oui, d'accord.
Et donc l'AIEA, je vais en parler, hein, parce que donc il fait dans le bouquin une référence à un article du Monde diplomatique de Alison Katz, écrit en 2008. Et en gros, elle accuse l'AIEA de c'est un institut, enfin une cellule de l'ONU, mais qui en fait a un lobbying pro nucléaire. Et il y a eu toute une campagne de désinformation très très grave, enfin sur la manière dont ils ont calculé le nombre de morts. Alors le mieux encore pour pas calculer le nombre de morts, c'était justement de ne pas faire les études. À partir de 10 ans, ils disent que ils ne prennent plus en compte. Ils sont même allés dire qu'il y avait une diminution de mortalité infantile parce que les gens ne sont pas morts enfants mais en étant adultes. C'est très grave. Alors, en même temps que je lisais ce bouquin, j'avais vu un article sur le Niger où il y a Areva là-bas qui pareil, en fait, les travailleurs d'Areva ne sont pas considérés qu'ils ont des maladies liées au travail. Alors que quasiment tous ont eu des cancers et meurent quelques années après être partis. Donc c'est pareil, c'est parce qu'il n'y a pas d'études, alors on peut dire que ce n'est pas grave. Et en fait, bon, tout ce qu'on relit, puis quand on relit des trucs, j'ai un article sur reporter.net sur le Japon, on voit aussi que...
Les gens retournent chez eux.
Ils demandent aux gens de retourner chez eux alors que le taux de radioactivité est beaucoup trop élevé. Et l'AIEA, et là, à chaque fois, hein, pour dire c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, on aurait pu en parler beaucoup plus, mais...
Mais on ira lire tes articles. Et donc, l'émission se termine. Alors, cette émission avait quelque chose de différent, oui. Un nouvel habillage sonore. Et donc, pour cet événement, on fait gagner un disque, le disque de l'artiste, au premier qui trouvera qui l'a réalisé. Et pour cela, seule solution, envoyez-nous un mail à pantherrouge.toutattaché93.3@gmail.com avec la bonne réponse.
Et t'y crois à ce que tu fais, Lise ?
Bah oui, il y a tellement d'auditeurs. Enfin bon, bref, vous qui m'écoutez, vous pouvez le faire. Un indice, une des pauses musicales est aussi interprétée par ces personnes. Que l'on remercie, on adore nos habits sonores. On remercie aussi Isabelle Frémaux. Merci beaucoup.
Et puis vous, auditeurs, vous avez qu'à courir à la médiathèque ou à la librairie du coin, vous procurer Les Sentiers de l'Utopie, ces 400 pages de bouffées d'oxygène, c'est en poche aux éditions La Découverte. On remercie aussi les gros doigts de Pierre Vial qui nous ont bien aidés aujourd'hui, merci beaucoup. Les petits doigts habiles.
Oui, les petits doigts délicats, je préfère.
Merci beaucoup.
Et ceux de Dimitri qui l'a soutenu.
Ouais, je sais pas ce qu'il a fait avec ses doigts, mais merci Dimitri. Donc c'est Claire, Clément et Élise qui étaient au micro. Clément, vous le retrouvez aussi tous les troisièmes vendredis du mois à 20h dans l'émission Le Coupe-Gorge.
Trop gentil, Lise.
Oui, merci. Mais il n'y a pas que pour toi, parce que tu pourrais nous répondre, genre Claire, Lise et Pierre, vous pouvez les retrouver dans une émission le lundi qui s'appelle L'Appel à Tarte. Une émission comment? Je ne sais pas trop comment la définir.
Il y a Claire au Coupe-Gorge aussi.
Ah oui, je suis à la technique.
Elle a des doigts aussi.
On est partout.
Et nous, on se retrouve dans 4 semaines. D'ici là, bonne écoute sur les ondes de Radio Campus et surtout, surtout, ne lâchez rien.
Ne lâchez rien.
Ne lâchez rien.